un service sur lequel vous pouvez vraiment compter.
Prenez rendez-vous dès maintenant chez House Garage, H-A-U-S Garage, sur Facebook.
Vous voulez patiner mieux ou juste patiner plus? La Disco Glace vous attend, avec des cours de patin offerts tous les jeudis de 17h30 à 18h30 grâce à Loisirs du Faubourg. Consultez notre site web ou nos réseaux sociaux @discoglace du Port de Québec pour plus d'informations.
Le Fonds de solidarité FTQ, c'est plus de 800 000 épargnantes et épargnants qui se disent
«Charge pas, moi je sais où je m'en vais.»
Qui se tiennent debout, qui épargnent pour leur retraite ici parce qu'ils
«Lâche pas, j'attends pas de crever.»
Pour que nos entreprises restent solides, que nos jobs restent ici parce qu'ils
«Lâche pas, moi je sais où je m'en vais.»
Et c'est seulement en investissant en nous qu'on pourra réussir.
Pas.
Au Fonds de solidarité FTQ, on lâche pas, puis on se lâche pas.
Éclairage LED Lévis remplace vos ampoules conventionnelles par des ampoules DEL de qualité commerciale. Des produits certifiés DLC adaptés aux différentes pièces de votre maison ou commerce et admissibles au programme bâtiment d'Hydro-Québec. À Saint-Romuald, éclairage LEDlévis.com.
Vous cherchez un entrepreneur pour la construction de votre maison ou pour des rénovations qui vous assurent une qualité de construction exemplaire? Construction Maurice Bilodeau, avec son équipe fiable et compétente, vous accompagnera à chaque étape avec son service client irréprochable. Visitez le mauricebilodeau.com.
Boulevard te tient informé toute la semaine.
Marceau le matin.
On en jase sur Boulevard 102.1. Il est précisément 13h15. C'est votre émission du midi, comme à chaque midi. Le retour de Gravel qui suit à 14h avec Denis Véro et Audrey. On aura Marceau ce soir avec Marc Bellemare, parce qu'on est lundi, toujours intéressant, à 18h. Et à 19h, c'est la série Podcast Nouveaux Événements. Podcast hors série qui va commencer. J'allais dire le premier. Est une reprise. Ça faisait partie de la série un peu grand événement parce que c'est les 50 ans de carrière de Pierre Houde, Mathias Turcotte.
Oh.
Donc, podcast enregistré avec Denis Gravel. Et à compter de la semaine prochaine, ce sera la nouvelle série des podcasts hors série. On va notamment commencer avec un podcast sur la sensibilisation à la prévention au suicide parce que c'est la semaine nationale la semaine prochaine de prévention au suicide. C'est moi-même. Avec mon cousin Éric, on parle de nos expériences, de nos idées noires qu'on a eues. Donc, on le fait pour justement égayer les gens que c'est possible, ça se peut, faut pas être gêné de ça, faut en parler. Et puis, c'est possible de rebondir parce que autant mon cousin Éric que moi, on est des beaux exemples de gens qui sont capables de rebondir et de voir maintenant la vie en rose après l'avoir vue de façon un petit peu plus noire. Parlant de noirceur, Mathias, c'est complètement fou ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Encore cette fin de semaine, un infirmier, Alex Pretty, qui portait une arme, a été tué lors d'une manifestation par les policiers ICE. On parle jusqu'à 10 détonations qui l'ont atteint. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me semble que pour maîtriser quelqu'un, après un ou deux coups de fusil, ça devrait être correct. On n'a pas besoin de vider notre chargeur sur la personne.
Puis, ceux qui ont vu les vidéos, parce que les images sont en circulation sur le web présentement, si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez aller voir. Si vous n'avez pas le cœur pas sensible, en fait, l'homme qui s'est fait désarmer par les agents avant les coups de feu, donc du côté des États-Unis, forcément, voir ces images-là qui circulent, ça amène beaucoup de questionnements.
Et on en parle avec notre excellent chroniqueur en politique américaine, Luc Laliberté. Luc, comment vas-tu?
Ça va bien. Salutations, Mathias. Et à toi, je dis ça va bien. C'est toujours dans mon petit univers égoïstement à la maison, c'est quand on en sort que les choses deviennent plus compliquées ou plus troubles.
Luc, c'est le chaos total présentement aux États-Unis. Tu as été enseignant en histoire de la politique américaine au cégep Garneau. Ça remonte à quand un dernier chaos comme ça? Est-ce que ça remonte à la Révolution?
Non, écoute, on a eu des chaos. On oublie souvent, puis ça m'attriste toujours d'avoir à le rappeler, que les États-Unis ont une histoire qui est marquée par la violence. Ça a été le cas à la naissance. C'est un pays qui est né d'une guerre, puis d'une guerre qui a été dure. C'est un pays qui a traversé une guerre civile, donc la guerre de sécession. Mais c'est un pays qui a eu, à divers moments, des affrontements coriaces, violents, musclés, peut-être plus près de nous, pour nos auditeurs un peu plus âgés ou pour ceux qui aiment l'histoire parmi les plus jeunes. Toute la période de la lutte pour les droits civiques, ça a été très dur, ça a été très violent. Le recours à la force, là encore, était utilisé, puis pas toujours, comme on l'enseigne en tout cas maintenant dans la plupart des écoles ou des services de formation pour les policiers. Donc, ce qui m'attriste aujourd'hui, puis on essaie toujours, puis je pense qu'on réussit souvent, on essaie toujours de trouver les bons mots, de pas aller dans l'exagération ou de bien définir les termes qu'on utilise, mais ce qui me désole présentement, c'est que ceux qui sont au pouvoir actuellement à Washington, c'est un groupe qu'on n'a jamais eu au pouvoir avant. Quand on regarde de qui est entouré Donald Trump, ce n'est pas de ces gens-là qu'on va attendre de la modération. Donc, où qu'on va juste, sans parler de modération, y aller d'un message rassembleur, des gens qui vont éviter de jeter de l'huile sur le feu. À ma connaissance, ce n'est pas arrivé souvent qu'on ait eu des gens aussi pleinement agressifs et violents, assumer pleinement, puis même développer des stratégies en fonction de ça pour contrôler la population.
Ben, je suis tellement d'accord avec toi. C'est ça, je suis tellement d'accord avec toi parce que autant dans la mort de Ronnie Good que dans la mort d'Alex Pretty cette fin de semaine, immédiatement, l'état-major autour de Donald Trump sort pour dire légitime défense, le manifestant avait une arme. Normalement, une organisation devrait sortir en disant écoutez, on va faire une enquête indépendante, on va attendre les conclusions de cette enquête-là, et en attendant, mes sympathies à la famille. Mais non, même pas de sympathie. C'est un woke, c'est un gauchiste, c'est les démocrates qui amènent cette violence-là. C'est épouvantable ce qu'on entend.
C'est même, Jean-François, une coche plus loin encore. Moi, j'invite les gens à réécouter les entrevues ou à aller lire les résumés là, qu'on en fait sur des sites d'information fiables, mais on les traite littéralement ou on les qualifie de terroristes. Donc, de terroristes domestiques. Vrai. Écoute, je vais essayer d'être prudent jusqu'au bout. On n'a pas encore eu l'enquête sur le décès de Ronnie Good et il y aura une enquête aussi sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Mais lisez les termes utilisés, regardez les images. Quand je dis les enquêtes, c'est que souvent, il nous manque des éléments d'information sur le « avant ». Il y a des images qu'on va voir pendant une minute, deux minutes, cinq minutes, mais on n'a pas le avant. Donc, il y a peut-être des informations qui vont nous permettre de nuancer ça ou de mieux expliquer, en tout cas, la situation. Mais moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est ce qu'on nous montre, ce qu'on voit de nos yeux à divers niveaux dans l'administration Trump, que ce soit près du terrain ou qu'on remonte jusqu'au président. Ce qu'on nous raconte ne correspond pas, mais alors là, pas du tout à ce qu'on... Et c'est même grossier. Donc, en fin de semaine, là, c'est intéressant, ça, on peut quand même s'exprimer parce qu'on l'a vu. Tu le mentionnais tout à l'heure en ouverture de notre conversation. On lui retire son arme. Et c'est après lui avoir retiré son arme, après, qu'on l'abat de 10 balles. Moi, je veux qu'on monte dans quel livre de règlement ou dans quel livre de formation on maîtrise un individu à bout portant en le canardant littéralement de 10 balles. On verra si on apprend autre chose sur ce manifestant-là après. Mais c'est absolument aberrant de présenter ces gens-là de la façon dont on les présente.
Est-ce qu'on peut dire justement que... Le vrai danger ou encore la source principale de division actuellement n'est pas nécessairement les actes, mais plutôt la réaction des élus puis des institutions au-dessus d'eux face à ces actes-là.
Moi, c'est là où je dis on instrumentalise. C'est très clair que l'administration Trump, puis il y en a qui sont d'accord, je pense, dans une certaine mesure, en tout cas avec ça, c'est qu'on veut projeter l'image d'être... on veut montrer que nous sommes des durs. C'est, on a des problèmes aux États-Unis, vous nous avez élus pour régler ces problèmes-là, puis on va être intransigeant, on va être ferme, on va être dur, puis on va aller jusqu'au bout de la démarche. Mais il y a toute une instrumentation de l'image de dur, mais une instrumentation aussi de la violence. Et je répète, il y a pas de livre de formation qui dise « Agissez comme ce qu'on a vu dans les deux incidents qui maintenant ont fait le tour de la planète. » Donc, les informations qui nous manquent, c'est plus le avant, les préparatifs, des éléments de contexte qui n'apparaissent pas dans les vidéos. Mais ensuite, ce qu'on a vu de nos yeux, c'est comment on a instrumentalisé ça. Et l'idée, c'est qu'on veut faire peur. Ensuite, on entre dans ce qui relève à la fois du complot, mais de choses ou d'hypothèses qui sont de plus en plus réalistes, c'est est-ce qu'on ne veut pas, justement, aller au-delà de la peur et semer le chaos? Si je suis un habitant de Minneapolis ce matin et que ça fait deux personnes que je vois abattues à bout portant, est-ce que ça se peut, un, que j'ai peur, probablement? Deux, est-ce que ça se peut que je sois en colère? Et soyons clairs, vraiment en maudit. Est-ce que ça se peut que je me mette à détester ces gens-là qui se présentent à visage couvert, sans être identifiés, et qui abattent des gens auxquels on n'avait absolument rien à reprocher jusqu'à maintenant? Est-ce que ça se peut que je sois maudit? Bien sûr. Avez-vous vu les images aussi des gens qui ont marché dans les rues en fin de semaine? Quand on déplace d'aussi grosses foules, habituellement, les forces de l'ordre vont y aller d'un appel au calme. On veut éviter une désescalade. Visiblement, ce n'est pas la stratégie qu'on utilise présentement, du moins du côté de ICE, en tout cas. Ça a été le cas de la Garde nationale, parce qu'on a vu les soldats de la Garde nationale qui sont intervenus, et le ton, la manière, l'approche, c'était diamétralement opposé à ce que ICE fait. Mais est-ce que l'administration pourrait dire après, si des manifestants sont vraiment maudits, qu'on les craint, qu'on les provoque, est-ce qu'il n'y en a pas un ou une à un moment donné, sachant le nombre d'armes qui circulent aux États-Unis? Parce que le manifestant qui était abattu avait une arme, ça on le sait, on lui a retiré. Mais ce qu'on entraîne ou ce qu'on provoque, c'est une escalade et c'est un chaos. Et c'est là où on dit, ça ressemble drôlement à une stratégie ça, derrière ça, qui est de déstabiliser les États. Puis si on se demande pourquoi, c'est pour justifier plus de force, mais c'est aussi préparer le terrain pour les élections de mi-mandat. Donald Trump, ça, je n'ai aucune gêne à vous l'affirmer, il a déjà commencé à œuvrer pour influencer les résultats de l'élection 2026. Il ne le fait pas par les armes actuellement, mais il a déjà demandé à son équipe d'intervenir dans beaucoup d'États, puis on veut changer la game, on veut changer la donne avant que les Américains ne se rendent voter au mois de novembre.
Pour rappel, on parle avec Luc Laliberté, excellent chroniqueur en politique américaine sur les ondes de Boulevard 101. Également pour le volet policier, je vous invite à aller sur blvd.fm. Ce matin, on a interviewé Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, qui a qualifié la bande du ICE de policier voyou. Donc, je vous invite à aller écouter le tout. Luc, je veux terminer là-dessus. Tu parles des élections de mi-mandat. Tu parles que Donald Trump prépare le terrain. Mais est-ce qu'il est en train de mal préparer le terrain? Parce que je suis tombé sur un sondage cette fin de semaine. Le taux d'impopularité du président est maintenant rendu à 63 % chez les 18-29 ans. Et 41 % de la population estime qu'il sera le pire président de l'histoire des États-Unis. C'est un sondage du New York Times. T'en penses quoi?
C'est une des choses que Donald Trump sait depuis un bon moment. D'abord, C'est presque une tradition statistiquement. Un président, à la deuxième année de son mandat, quand on fait les élections de mi-mandat, c'est souvent parce qu'il agit vite dans les deux premières années, c'est plus impopulaire, c'est là où on brasse la cage quand on a une majorité. Mm-hmm. Et souvent, ça a comme contre-coup, comme effet, de perdre une majorité dans les deux chambres ou dans une des deux chambres. Donc, Donald Trump ne serait pas une exception là-dedans. Mais c'est clair qu'avec tout ce qu'il a fait, la vitesse à laquelle il le fait, ça ne regarde pas bien pour les républicains, assurément, à la Chambre des représentants. Ça prendrait presque un miracle pour inverser la tendance. Au Sénat, c'est différent, c'est plus serré, mais à la Chambre des représentants, il est déjà dans l'eau chaude. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, il doit agir très vite si jamais il veut semer le chaos avant cette élection-là, ou encore changer les règles du jeu, parce que le déséquilibre est tel, donc, qui a besoin d'une compensation qui est énorme. Et dans les chiffres que tu viens de préciser, il y a une chose que j'ai remarquée, parce qu'on les analyse, les sondages, hein, souvent, on y va avec un gros chiffre ou deux gros chiffres. Ouais. Regarde les tranches d'âge. Les jeunes actuellement, puis on vit ça aussi au Canada et au Québec, et c'est bien légitime, les jeunes sont un peu plus conservateurs qu'ils ne l'étaient avant, quand on fait la répartition dans la population. Et des jeunes conservateurs, donc plus enclins à voter républicain, il y en a un grand nombre, et ils ont voté pour Trump. Il y a pas si longtemps, il y a à peine plus d'un an. Si ces jeunes-là, Trump vient les perdre, il ne peut plus espérer gagner ou même se relever. Je l'ai répété souvent, hein, Trump, il y a un noyau dur qui lui permet de se maintenir, et ça, dans les appuis, ça s'est à peine effrité. Donc, les purs et durs Trump, ceux qu'on qualifie de MAGA à l'occasion, ceux-là, ils restent avec le chef, ils restent avec le patron, mais il peut pas gagner juste avec eux. Il peut se maintenir dans le parti, il peut contrôler une portion de sa formation politique, mais il ne peut pas battre les démocrates s'il ne va pas au-delà de ça. Et là, ben, quand on frappe chez les jeunes, ils vont faire quoi? Ils vont rester à la maison ou ils vont aller enregistrer un vote de protestation pour des démocrates? Ça, c'est l'autre match qui va rester à jouer. Joe Biden a perdu la dernière fois parce que beaucoup de gens, mais Kamala Harris. Harris a perdu parce que beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui avaient voté pour Biden, ils sont au moins 4 millions, ils ont préféré rester à la maison. Donald Trump n'avait pas amélioré son score ou ses résultats tant que ça. C'est Mme Harris qui a perdu des votes ou qui ne les a pas fait sortir. Donc, là, Donald Trump doit considérer ça aussi. Ces gens-là que je perds et qu'on retrouve dans les sondages maintenant, ils vont rester à la maison ou ils sont prêts à se déplacer pour dire « On en a assez vu de ce que font les républicains, on est déçus, Trump va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, entre autres sur l'immigration qui était son dossier phare. » Donc, je répète, ça ne regarde pas bien. Je serais très étonné que les républicains conservent la Chambre. Ce que je veux voir d'ici là, c'est on fait quoi du côté de l'administration pour changer la donne. Mm-hmm. Et on fera pas ça, les gens, en passant, là, puis je vais m'arrêter là pour relancer ou pour vous laisser continuer, mais quand on dit Donald Trump pourrait annuler les élections, il n'y a rien qui permet ça. Ce que peut faire l'administration Trump, puis là, bon, on verra s'il nous donne raison, mais ce que l'administration Trump peut faire, c'est semer le chaos dans quelques États pour nuire à la certification éventuelle des résultats. Ça, c'est différent.
Oh, on a eu un problème technique et on a perdu Luc. Ouais.
On vient de perdre Luc.
Exactement, c'est pas plus grave, on était rendu à la fin. Donc, très différent, justement, au niveau des élections de mi-mandat. Bien hâte de voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines aux États-Unis parce que le chaos est vraiment créé au Minnesota, puis c'est rien de beau, il y a énormément de violence.
Ça devient inquiétant, plus que ça avance, plus que ça devient inquiétant. Par contre, je tiens à vous le rappeler, c'est pas ici que ça se passe, ça reste aux États-Unis. Oui, c'est proche, mais c'est pas dans... Je veux dire, c'est pas à Québec au moins, là. Fait que oui, c'est inquiétant, mais faut pas trop stresser avec ça non plus.
Ouais, faut regarder quand même ce qui se passe au sud de la frontière parce que ça a énormément d'impact sur ce qui se passe ici. Mathias, quelques manchettes avant qu'on passe à nos prochains invités qui seront Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. On va venir parler de cette alliance entre ces deux chambres de commerce qui fête son premier anniversaire aujourd'hui.
Point de presse aujourd'hui, ce matin, de Mark Carney qui a annoncé une bonification du crédit de la TPS. Donc, crédit de la TPS qui est remis aux personnes qui ont des salaires plus bas, moins élevés. Donc, on parle notamment pour une personne seule, sans enfant, c'est moins de 56 000 $ et ainsi de suite. Donc, crédit de la TPS, c'est environ 12 000 de Canadiens qui ont accès chaque année. Ça va être environ 130 $ de plus par année que les personnes vont toucher. Ou encore, on peut parler de 270 $ pour un couple avec deux enfants. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les Canadiens. Mark Carney qui a pris cette décision-là en disant que le coût de la vie augmente puis avec l'inflation, ça devient le pouvoir d'achat diminue justement. Puis en parlant de Mark Carney, bien sûr, il s'est fait poser certaines questions sur son discours qu'il a livré à Québec la semaine dernière, le fameux discours sur les plaines, qui a fait si réagir, notamment du côté du Parti québécois, que Paul Saint-Pierre Plamondon, en fin de semaine, a dit littéralement « Mark Carney, avec son discours sur les plaines, a réécrit l'histoire et a donc débuté par lui-même cette troisième campagne référendaire-là. Aujourd'hui, il s'est défendu par rapport à son discours en disant que non, il n'y a pas une lecture jovialiste de l'histoire, que cette fameuse collaboration-là a émergé d'un processus très difficile. Il a aimé également préciser qu'il a nommé, qu'il a parlé contre certaines politiques qui visaient qui visait à assimiler les Québécois. Donc, il s'est défendu aujourd'hui par rapport à son discours et a refusé de s'excuser au peuple québécois.
On va parler d'économie ici à Québec avec les menaces de Donald Trump de 100% de tarifs au Canada en raison de l'entente avec la Chine et des belles réalisations qui sont faites dans la dernière année entre les chambres de commerce de Québec et du Grand Lévis avec Frédéric Boisvert et Marie-Josée Morancy dans un instant à l'émission On en jase sur Boulevard 101.